Retrouvons ce zèle, mes frères et sœurs, ou plutôt ne le perdons pas. Imitons la foi des premiers disciples, dont le zèle a permis que le monde connaisse la parole du Seigneur. Sans moyens, sans télévision, sans satellite, ils ont abondamment répandu l'Évangile dans tout l'Empire romain et grec et tout le Proche-Orient. Et les premiers disciples déjà allés vers les Indes, l'Arménie, toute la région du Moyen-Orient, l'Égypte. Nous allons parler ce matin sur Dieu qui renouvelle son Église. Et je vais faire une lecture d'introduction avec l'épître de Tite, à Tite, de Paul à Tite. Au chapitre 3, l'avant-dernière des épîtres de Paul, avant l'épître aux Hébreux. Et ce matin, je parle à l'Église, celle qui va maintenant s'ajouter cet après-midi, celle qui est là depuis des mois et des années, l'Église de toujours. Titre, chapitre 3, verset 1er. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais, heureusement qu'il y a des mais dans la Bible, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais à cause de sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu, le Saint-Esprit, sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers dans l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Amen. Nous te prions de bénir ta parole, Seigneur, et que nos cœurs soient des vases propres, ouverts, utiles pour accueillir le message tu veux ce matin communiquer à nos frères et sœurs qui vont prendre le baptême et à nous tous qui sommes en marche vers le royaume de Dieu. Amen. Dieu renouvelle son Église. L'Église, c'est chacun de nous. Je pourrais dire Dieu nous renouvelle. Je ne dis pas nous renouvellera. Je pense que sans cesse, il nous renouvelle. Nous nous renouvelons de jour en jour, dit la Bible. La vie est un renouvellement permanent. Les saisons et les printemps se succèdent. L'amour est un renouvellement permanent. La vie avec Dieu, c'est un renouvellement. Seule une Église qui vit ce renouvellement, sera capable de faire entendre l'Évangile à un monde qui titube sous l'emprise du péché, surtout aujourd'hui sexuel, d'argent, de convoitise. Jésus a comparé le Saint-Esprit à un fleuve. Le fleuve n'arrête jamais. On se demande d'où il prend toute cette eau. Comme le fleuve, le Saint-Esprit coule en nous. Il vous apporte un renouvellement permanent. Renouvellement dans notre intelligence. Renouvellement dans la connaissance des saintes Écritures. Renouvellement dans notre être intérieur, dit l'apôtre, de jour en jour. Nous ne sommes plus comme autrefois. Amen. Vous écouterez les témoignages cet après-midi et dimanche prochain. La transformation est magnifique. Nous ne sommes plus comme autrefois et pourtant, demain, je ne voudrais pas être comme je suis aujourd'hui. Je voudrais toujours me renouveler. Et vous ? Sans cesse, de progrès en progrès. Paul, dans cette épître, parle du renouvellement que donne le Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit nous transforme sans cesse. Et une Église qui est sans cesse renouvelée dans sa force d'aimer, ses capacités à espérer, ses forces de prière, c'est une Église qui va se manifester dans le monde. Amen. Quand il y a de la lumière, ça se voit dehors. Et si l'Église est remplie de cette lumière de Dieu, elle éclairera. Amen. Le Seigneur envoie son esprit et il renouvelle la face de la terre. Les pommiers, les poiriers, les poireaux, la terre. Et il renouvelle aussi et surtout la face de l'Église. Dans l'Apocalypse, Dieu dit à l'apôtre Jean, « Voici, je fais toute chose nouvelle. » C'est un Dieu de nouveauté. Ça ne veut pas dire que la vérité qu'il a dit hier n'est plus vérité. Mais il nous conduit dans la vérité. La vérité n'a pas de fin. L'univers n'a pas de fin. L'amour de Dieu n'a pas de fin. Notre vie n'a pas de fin. On ne pourra jamais dire, ça y est, je suis arrivé. C'est parce que si vous dites ça, vous n'avez jamais commencé. On continue. Amen. Je voudrais vous citer 4 petits textes de la parole de Dieu pour vous montrer ce qu'est une église renouvelée. Premier texte, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre, enfin je ne vais pas dire renouvelé, en renouvellement. Chapitre 5, Apocalypse, et verset 8. C'est une vision de Jean dans le royaume de Dieu, là-haut dans le ciel. Et il voit le Seigneur et des choses qu'on a parfois du mal à comprendre, à réaliser. Quand il eut pris le livre, là il parle de celui qui est assis sur le trône, les 4 êtres vivants, donc le Christ, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, Jésus, hein, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre » et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Le renouvellement que Dieu nous donne une adoration pleine de respect. L'adoration. Ces 24 vieillards de l'Apocalypse peuvent représenter les croyants de l'Ancien Testament et tous les croyants du Nouveau Testament. Et ils sont devant le Christ qui est sur son trône et ils se prosternent. Et leur adoration, c'est un modèle pour nous. Nous sommes devant le trône de Dieu. Une église en renouvellement est une église où l'adoration a sa place. Pas seulement dans le culte. Tous les jours, nous adorons le Seigneur. C'est un devoir, l'adoration. Parce que la parole de Dieu a créé le monde et devant cela, nous disons « Comme c'est beau !»« Comme c'est intelligent !» Dieu est très grand, très sage, l'adoration. Et la parole de Dieu nous a révélé le Christ, grand mystère, grand amour. Et devant cela, nous disons « Comme c'est beau !» On n'a pas toujours des mots poétiques, mais on dit « Ah !» C'est extraordinaire. C'est l'adoration. L'adoration, c'est la réponse à ce que Dieu fait. On ne regarde pas ailleurs en disant « bof, du moment que j'ai mon portable ». On regarde ce que Dieu fait. Je regarde ces 12 personnes, il y en a encore d'autres en septembre des baptêmes, mais disons ceux d'aujourd'hui, ces 5 frères et sœurs qui ont été sauvés de vraiment de... Vous entendrez leur témoignage de l'enfer. Je dis, Seigneur, comme c'est beau. Personne n'a pu les saisir, toi seul. Et le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous stimule notre adoration. Le jour de la Pentecôte, eh bien, il priait en d'autres langues et il racontait les merveilles de Dieu. Faut qu'on soit émerveillé devant les merveilles de Dieu. L'adoration, nous la faisons par des paroles. Nous la faisons par des chants. Nous la faisons dans nos pensées de chaque jour, du matin au soir. Nous la faisons en écoutant la parole et en la respectant. Nous la faisons par notre vie quotidienne. Nous ne voulons pas être de ceux qui ont un langage magnifique, mais dont le cœur est loin de Dieu. On adore Dieu avec toute sa vie et avec les qualités de sa vie. Qu'a dit le Seigneur ? Si vous portez des fruits d'amour, de bonté, de pardon, de patience, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Amen. La louange verbale seulement ne serait rien si nous n'avions pas des sentiments de pardon, de générosité, d'attention envers les autres. Qu'ont dit les vieillards dans le ciel ? J'aimerais qu'on le dise ce matin. Tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute race. Amen. Tu as fait d'eux un royaume, tu as fait d'eux des serviteurs, des servantes, des adorateurs. Personne ne pouvait les chercher. Toi, tu l'as fait. Mes frères, mes sœurs qui vont prendre le baptême, allez lentement dans l'adoration. Ne vous complexez pas. Cherchez pas à imiter les grands poètes. Je crois que c'est le langage du cœur qui répond à Dieu. Allez selon votre propre rythme. N'ayez pas peur de vos mots, même s'ils vous paraissent bien faibles. C'est plus que tout ce qu'on pourrait vous apprendre, parce que ça sort du cœur. Marchez auprès du Seigneur et il vous inspirera, il vous montrera. Écoutez le langage de la création. La création créée par la parole, c'est une parole. Écoutez le langage de la Bible, c'est une parole de Dieu. Et avec tout cela, eh bien, remerciez Dieu. Remerciez parce que nous sommes sur la terre, nous avons appris ça autrefois quand nous étions enfants, nous sommes sur la terre pour glorifier Dieu, pour craindre Dieu, pour admirer Dieu. Les poissons, les oiseaux, le vent, le brouillard, le soleil, tout est dans l'adoration de Dieu. Et nous, nous sommes l'élite en tête de la création pour dire, Seigneur, tu es notre refuge. Dans la tempête, tu es notre bouclier. Amen. Une église en renouvellement, elle a une intercession qui coûte. Je vais lire avec vous dans Acte 12. Acte 12, verset 1er. Acte 12, verset 1er, quelques mots. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Vous écoutez bien. Ce n'est pas toujours facile. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean, l'apôtre. Voyant que cela était agréable aux Juifs, enfin certains, hein, il fit encore arrêter Pierre. C'est le bouquet. Hein. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire Pâques. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître, c'est-à-dire de le faire mourir devant le peuple après la Pâque. L'intention était que Pierre meure devant toute la foule, comme Jésus. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait, on le lit ensemble, d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. L'intercession. Je pense que l'Église a dû prier plusieurs jours parce qu'on attendait la fin de la fête de Pâques et l'Église aurait pu être découragée parce qu'on venait de tuer leur apôtre Jacques et Pierre était mis en prison et il était condamné à mort. L'Église ne se résigne pas, c'est ça une Église qui se renouvelle. Elle ne se résigne pas, elle ne s'arrête pas. Elle prie sans cesse. Une église qui vit le renouvellement comprend la valeur de la prière. Et elle prend du temps pour prier. Parce qu'elle sait que Dieu entend toujours la prière. Mais l'intercession, ça coûte. Ça coûte du temps. Vous avez du temps à perdre ? C'est pas à perdre. Hein. Vous avez du temps de libre ? Une intercession, ça coûte parce qu'il faut faire des choix. On ne peut pas aller se promener puis être dans l'intercession pour quelqu'un qui va mourir. L'intercession, ça nous demande d'organiser notre vie, de renoncer aux choses vaines. L'intercession, ça nous demande d'être aveugle et sourd. Aveugle à certaines choses agréables et sourd aux appels qui nous demandent de délaisser le lieu saint. L'Église prie sans cesse, jour et nuit. Et pendant la réunion de prière, un ange du Seigneur apparaît. Pas dans la réunion de prière. Il apparaît dans la prison. Où était Pierre ? Et l'ange pardonnait à Pierre, parce que Pierre est en train de dormir. Pendant que tout le monde prie, l'ange le réveille, le frappe au côté, et lui dit, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et Pierre est sorti de la prison. Tout le monde était anesthésié, aveugle, et les portes se sont ouvertes. La réunion de prière nous met dans l'action de Dieu. La réunion de prière nous met dans le conseil secret de Dieu. Dieu nous dit, priez, moi je vais agir. Priez pour le changement d'église que nous allons vivre cette année. Priez pour la conversion des habitants de Rennes. Priez pour que Dieu nous donne des clés. Il nous a donné des clés pour ouvrir toutes les maisons. Je vous en reparlerai. Mais priez, parce qu'il ne s'agit pas seulement que nous allions, mais il faut que la grâce du Seigneur soit en nous. Amen. Prions pour le rayonnement de l'Église dans toute la ville, pour nos malades et les malades que nous rencontrerons. Une Église qui se renouvelle, elle montre son souci d'une priorité. Les autres, l'homme, la femme, les enfants, elle n'est pas repliée sur elle-même. Elle voit les autres. Nous avons fait tout ce travail de la nouvelle Église dans le seul souci, et Dieu m'est témoin, de nous rapprocher des autres. Pas pour faire le beau, pour nous rapprocher des autres. Entrons dans l'intercession. C'est jamais simple, c'est jamais tranquille. Il faut vaincre des fatigues. Il faut surpasser ses propres difficultés personnelles. Il faut se garder pur pour être entendu de Dieu. Il faut être disponible au Seigneur. Il faut dominer son égoïsme, ses convoitises. Exerce-toi à la piété. C'est un exercice. C'est un combat. Je crois que le Seigneur conduit l'Église à une prière renouvelée, surtout quand on se tient près des gens. Pas dans la bulle, près des gens. Quand on voit la détresse et quand on se tient près de Dieu, quand son cœur bat dans notre cœur, notre prière n'est pas la même. On prie parfois sans mots, avec des larmes, des supplications. Une Église renouvelée, c'est une Église qui intercède et ça coûte. Enfin, regardons dans Actes des Apôtres, encore au chapitre 8, une Église en voie de renouvellement, c'est une Église qui a des disciples actifs. Acte 8, verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne, vous le connaissez, ce Saul. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, c'est affreux, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Amen. Et je lis avec vous au chapitre 11 et au verset 19. Ceux qui avaient été dispersés, n'est-ce pas ? On vient de le lire à l'instant. Par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, c'est le Liban, dans l'île de Chypre, à Antioche, c'est la Syrie, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, aux non-Juifs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Amen. La persécution a bousculé l'Église. ça a réveillé l'Église qui s'est mise à évangéliser la Judée, la Samarie, la Phénicie, la Syrie, Chypre. Ils sont partis. Aller par tout le monde. Cela s'est fait dans la persécution, la bousculade. La première église, sinon, est restée dans le bocal de Jérusalem. C'était la ville la plus sainte du monde. On était bien. Il n'y avait rien à dire. À côté, c'est la détresse. C'est les bidonvilles, c'est la détresse, c'est la misère, l'idolâtrie. Mais Jérusalem, Dieu a dit non. On ne va pas laisser ces forces magnifiques-là, des milliers de chrétiens repliés sur eux-mêmes, renfermés dans leur petit confort. Le Seigneur a bousculé l'Église qui est allée évangéliser partout. Amen. Quand Dieu renouvelle l'Église, chacun prend conscience qu'il est un membre des autres, un serviteur. Une Église qui se renouvelle, elle est sensible aux besoins des villes, des campagnes, des enfants, des malades. En Éthiopie, il y a quelques années, il y a une église, un peu comme la nôtre, qui a été persécutée par le gouvernement. Oui. Et le gouvernement a dû arrêter la persécution. Il a dû dire, on arrête, il faut qu'on s'incline. Parce que quand on ferme une église, ils en ouvrent 60. Alléluia. Et une de ces églises faisait 100 baptêmes. Par mois. Alors on arrête la persécution. Ça ne rapporte rien. Et ça, c'est connu depuis que le Christ est venu. C'est l'endormissement qui fait bien. C'est les convoitises. Là, ça marche. La persécution bouscule. Les chrétiens d'Éthiopie ont recherché une dépendance avec le Seigneur. Ils ont recherché un renouvellement de leur foi. Ils se préparaient à toutes les éventualités. Ils étaient prêts à mourir par amour pour Jésus, par amour pour Jésus. Ils passaient par-dessus toutes les choses administratives, etc. Ils allaient directement dans l'amour du Christ porter la bonne nouvelle. Les chrétiens les plus faibles, les plus superficiels s'enracinaient, se fondaient, devenaient solides. L'amour du Christ va descendre sur l'assemblée, amen, et va nous presser pour que nous devenions une source de bénédiction pour les autres, pour vos familles et pour ceux qui nous entourent. Quand une église se tourne vers la mission, c'est pas parce qu'elle s'organise seulement. C'est pas parce qu'elle a du zèle seulement. Quand elle se tourne vers les autres, c'est parce que le Saint-Esprit souffle en elle. Amen. Jésus à Pâques dit, il a soufflé sur les apôtres. Il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Comme le Père vous m'a envoyé, je vous envoie. Recevez le Saint-Esprit. La valeur d'une église se voit dans les temps de défi. On a quelque chose à faire à Rennes. Elle se voit dans les temps de crise. L'église de Jérusalem a montré sa valeur dans la persécution. Ils n'ont pas dit, puisque c'est ça, on rentre chez nous. Ils sont allés. Et la main du Seigneur était sur eux. Une église renouvelée ne compte pas seulement les membres qui sont assis sur les chaises, ou les actes ou les actions que nous faisons. Une église renouvelée voit la qualité de ce que nous faisons. C'est la qualité pour Dieu. On travaille pour Dieu, pour être vu de Dieu seul. Enfin, je termine avec un quatrième point de l'église renouvelée par Dieu. Ne cherchez pas dans les chroniques, je vais lire, il n'y a que quelques mots. Une église renouvelée par Dieu, elle vit dans une vigilance attentive. Je lis un verset. Les fils d'Issacar, c'est une famille d'Israël autrefois, avaient l'intelligence des temps. Ils savaient dans quel temps ils étaient. L'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Une église qui est dans le renouvellement du Saint-Esprit se tourne vers l'avenir. C'est notre préoccupation aujourd'hui, c'est-à-dire vos enfants, vos familles. Une Église qui est renouvelée, elle se prépare à faire face à toutes les situations. Nous allons connaître des temps très difficiles. Les fils d'Issacar avaient l'intelligence des temps. Ils savaient, et ils savaient comment répondre, comment vivre, comment agir dans les temps les plus difficiles. On ne doit pas dormir. On ne doit pas rester tourné vers le passé. On ne renie pas le passé, mais on a quelque chose à donner aujourd'hui. C'est un impératif. Les difficultés vont prendre des dimensions apocalyptiques. Les maladies, le chômage, l'engorgement des villes, la disparition des valeurs morales, spirituelles, chrétiennes. Il y aura des attaques publiques sur la Bible. Il faut que l'Église, dans son renouvellement, préserve son message tourné vers la sainteté. Qu'elle ait une piété, c'est-à-dire une vie de prière, une vie de conduite exemplaire. Exemplaire. On va se faire montrer du doigt. Il y aura des humoristes qui vont bien rire de nous. Mais on continuera. On continuera d'annoncer. Nous n'aurons pas un message de repli en disant « Oh, faut plus aller nulle part ». Pas un message d'exclusion en disant « Le monde, il ne vaut plus rien ». Pas un message de condamnation. On ne condamne pas le monde. Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Mais nous aurons un message de foi. Et nous dirons « Le Seigneur est sur son trône, même au temps du déluge ». Il domine sur toutes choses. Amen. Même si mon mari ne suit pas et mes enfants tournent mal. Mais le Seigneur est sur son trône et c'est lui qui commande. Et nous dirons, comme Jésus a dit à Pierre, le Seigneur bâtit l'Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un message de foi devant l'invisible. Une Église renouvelée veille sur son message, sur son exemple, sur la transmission de l'Évangile aux enfants, aux personnes nouvelles. Une Église renouvelée marche pour que l'avenir nous permette de continuer l'évangélisation et la sainteté. Amen. Renouvelle-nous, Seigneur. Mais tu le fais parce que tu en prends soin de ton Église comme de ton propre corps. Et Paul dit aux Éphésiens, le Seigneur rend son Église, qui est son épouse, belle, sans tache, sans rides. C'est-à-dire qu'elle ne vieillit pas. Irréprochable. L'Église, c'est le travail de Jésus-Christ. Dieu fait quelque chose dans l'Église. Aujourd'hui, que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce renouvellement, ce bain de régénération pour l'Esprit Saint répandu, la parole qui agit en nous qui croyons. Merci parce que tu nous assures de ton pardon, tu nous assures de la force de Dieu en nous, tu mets ta sainteté en nous, tu nous parles d'une manière ou d'une autre, tu nous attires par des cordages d'amour, tu es avec l'Église, tu la conduis vers ton Père, tu viens la chercher bientôt et nous serons toujours avec toi et nous nous consolons par ces paroles. Garde-nous dans ce temps pour que nous soyons des adorateurs, que nous soyons des intercesseurs, que nous soyons actifs dans l'évangélisation et que nous soyons vigilants pour l'avenir et pour le présent. Amen.